Bonjour à tous, vous écoutez les Pipelettes pour une nouvelle émission.
Au micro, Miyako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons évoquer trois faits méconnus passés un 1er avril.
Miyako vous parlera de la deuxième exposition universelle dirigée par Napoléon III. Laure vous présentera Edmond Rostand et je finirai par vous parler de la mathématicienne Sophie Germain.
Nous allons bien évidemment vous raconter tout sur le traditionnel 1er avril.
Vous avez bien noté nos trois dates ? Les Pipelettes, c'est dans un instant.
Comme vous le savez tous, le 1er avril est connu pour être le jour des blagues.
Mais ce que peu de gens savent, c'est d'où vient cette drôle de tradition.
Son origine est controversée et plusieurs théories existent à son sujet. Laure, c'est quoi la plus connue ?
Il faut remonter au XVIe siècle. À cette époque, le calendrier julien était en vigueur. La nouvelle année débutait le 25 mars, mais en 1564, le roi Charles IX décrète que l'année débutera le 1er janvier.
Les gens étaient habitués à s'offrir des cadeaux pour la nouvelle année, et certains ont continué à le faire par tradition.
Certaines personnes en ont profité donc pour faire des blagues et offrir de faux présents.
Beaucoup de gens supposent que le poisson que les enfants ont l'habitude de coller dans le dos de leurs amis vient de l'époque où le jour se situe.
En effet, le 1er avril arrive à la fin du carême, une période où la consommation de poisson revenait suite à de longues semaines de jeûne.
Voilà donc une possible origine de la tradition.
Retrouvons Miyako qui nous détaille la deuxième exposition universelle dirigée par Napoléon III.
Merci Laure. En effet, j'ai choisi comme événement la deuxième exposition universelle qui a eu lieu à Paris du 1er avril au 31 octobre 1867. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première mais la deuxième exposition. Celle-ci est plus importante et beaucoup plus marquante que la première qui s'était déroulée en 1855. Il faut dire que plus de 100 hectares sont consacrés à l'exposition.
Elle allait des Champs-Élysées jusqu'au Champ de Mars.
Petite parenthèse, cette exposition a reçu plus de 6 millions de visiteurs. Ils allaient aussi admirer le nouveau Paris élargi en 1860 à 20 arrondissements et aussi des nouvelles avenues. Lors de cette exposition, Paris va recevoir plusieurs créateurs, artistes, sculpteurs. Par exemple, on peut citer Gustave Eiffel, qui va construire le symbole de la capitale, la journaliste Julie-Victoire Daubier, qui va remporter la médaille de bronze pour son œuvre, et Félix Léon Edoux, qui invente le mot ascenseur. Lors de cette exposition, Paris va recevoir des dirigeants et d'importantes personnes, venues de tous les continents. On y retrouve le prince Oscar de Suède, le tsar Alexandre II, le prince japonais Tokugawa Akitake et même le roi Guillaume de Prusse.
Et, à ce même moment, avait lieu au Théâtre des Variétés la grande première de la Duchesse de Gerolstein, un opéra créé par Jacques Offenbach.
Vous aimez le danger, le péril vous attire, et vous ferez votre devoir. Vous dire non pas à Dieu, non pas.
militaires, j'aime les militaires, leur aimant-cœur, leur manière, en leur tout me plaît. Quand je vois la mairie soldats, les appartir pour la guerre, si que ce poids, il y a 15 pas, vrai Dieu, je suis toute fière, seront-ils vainqueurs ou défaire? Je n'en sais rien ce que je sais. Je n'en sais rien ce que je sais. Je n'en sais rien ce que je sais. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. J'aime, oui, j'aime les militaires.
À toi, Laure, de nous expliquer qui était ce fameux Edmond Rostand.
Merci Louise. Edmond Rostand est né le 1er avril 1868, il y a donc 154 ans, et est mort le 2 décembre 1918. Il est connu comme étant un poète et dramaturge français, et c'était le fils d'Eugène et Angélique Rostand, deux personnes de la haute bourgeoisie marseillaise, son père étant un homme politique et économiste. Il va suivre des études de droit forcées par ses parents, mais il est bien décidé à devenir poète. Et en 1886, lorsqu'il rencontre Rosemond Gérard, il abandonne le droit et devient poète comme elle. Elle deviendra ensuite sa femme et ils auront deux enfants, Maurice le premier, né en 1891, et Jean, né en 1894. Et en 1888, il écrit enfin sa première pièce, Le Gant Rouge, mais qui est malheureusement un four. Et face à cette défaite, Rostand décide de ne plus écrire. Mais heureusement, en 1897, il publie Cyrano de Bergerac, qui va être son plus grand succès. La France est charmée par ce Gascon au nez interminable et à la langue bien pendue, poète à ses heures et amoureux fou de sa cousine.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux? Que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédon! L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe et les fantômes camélos, dut avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quel enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointé contre cavalerie! Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà dans ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître.
Et ce héros enfantin mais brave va séduire, aidé par les pièces qui s'en suivent, l'Académie française qui élit Rostand en 1901. Il aura bien d'autres succès, mais les plus importants seront L'Aiglon en 1900 et Chancelier en 1910. En 1914, pendant la guerre mondiale, Edmond Rostand s'engage dans l'armée française et meurt malheureusement le 2 décembre 1918 à cause de la grippe espagnole.
Et il y a 154 ans, Gabriel Fauré composait Le Papillon et la Fleur, opus 1, numéro 1.
Tu t'en vas, pourtant nous aimons, nous vivons.
Finissons avec Louise et cette incroyable Sophie Germain.
Oyez, oyez, je m'adresse à vous, jeune apprenti des maths. Vous qui connaissez Pythagore, Thalès et Fermat, pouvez-vous me citer une mathématicienne? Alors?
Oreilles ou sinus, c'est un genre de cancer implacable et vicieux, mais qui d'après les profs est rarement contagieux.
C'est les mathématiques.
Les mathématiques.
C'est les mathématiques.
Les mathématiques.
À ce syndrome grave, aucune thérapie, même les bains de siège de Rika Zaraï. Et au CNRS, à l'Institut Pasteur, personne ne croit plus au vaccin salvateur.
C'est les mathématiques.
Les mathématiques.
C'est les mathématiques.
Les mathématiques.
Ça me prend au réveil, à peine un œil ouvert. Il me faut ma ration d'équations linéaires. Au début c'était peu, et puis la dose augmente. Il me faut sans arrêt varier ma constante.
C'est les mathématiques.
Et les mathématiques.
Heureusement pour vous, aujourd'hui nous allons parler de Sophie Germain, une des premières grandes mathématiciennes françaises. Née à Paris il y a exactement 246 ans, jour pour jour, elle grandit au cœur de la Révolution française et du régime de la Terreur. Confinée chez elle pour éviter de croiser la tête de Delaunay se baladant sur un pic en bas de sa rue, Germain, qui a eu la chance d'apprendre à lire et à compter, abandonne la broderie et commence à s'intéresser aux mathématiques dès l'âge de 13 ans. En parfaite autodidacte, elle se passionne pour les écrits mathématiques de Montucla ou de Bézout qu'elle trouve dans la bibliothèque de sa famille bourgeoise. Mais on commence à s'inquiéter autour d'elle. Que fait une si charmante demoiselle lancée à résoudre des équations à pas d'heure avec des bouts de bougies volés? Eh bien, devinez quoi? Germain parvient, malgré les bâtons qu'on lui met dans les roues, à devenir une grande mathématicienne. Elle se débrouille pour suivre les cours de la prestigieuse école de polytechnique en distanciel au XVIIIe siècle, je vous rappelle. Grâce à un élève Auguste Leblanc, puisque, bien entendu, enfin pour l'époque, l'école est interdite aux femmes. Elle parvient donc à faire les exercices et à les rendre à Leblanc qui les donne lui au professeur sous son nom de garçon, évidemment. Quand Leblanc, le vrai cette fois, est convoqué par un professeur Lagrange pour discuter de ses soudaines et étonnantes prouesses mathématiques, il avoue toute la supercherie. Sophie Germain fait officiellement son entrée dans le monde des maths avec son nouveau mentor, Lagrange. Elle commence ainsi des travaux par correspondance avec Gauss et son célèbre pivot. Elle commence ainsi des travaux par correspondance avec Gauss et son célèbre pivot sur la théorie des nombres, toujours en utilisant un pseudonyme masculin. Elle lui révélera plus tard être une femme, et celui-ci lui répondra, Laure cite,
« Lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes, à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elles aient le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur. »
Notre génie fera grandement avancer le théorème de Pierre de Fermat en montrant que celui-ci se vérifiait pour certains nombres premiers, que l'on appelle aujourd'hui « nombre de Sophie Germain ». Elle gagnera en 1816, à la suite de 3 mémoires sur l'élasticité des corps, le prix de l'Académie des sciences, qui est la plus haute distinction mathématique. Mais, encore un problème d'époque, les femmes ne sont pas autorisées à l'Académie. Et ainsi, Sophie Germain ne sera même pas invitée à sa propre mise de prix. Plus tard, son ami Fournier lui permettra, en tant qu'accompagnateur, d'assister aux séances de l'Académie. 160 ans, rien que ça avant la première femme qui a été admise officiellement. Germain est ainsi la mère des mathématiques modernes, au même titre que d'autres mathématiciens dont le nom masculin nous est bien plus familier.
Et l'année de sa naissance, Joseph Haydn composait la symphonie numéro 60 en D major.
Thank you.
faut y aller.
Oui, mais ne vous inquiétez pas, car nous sommes bientôt de retour pour une prochaine émission.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur www.radio-lfb.net.
Vous pourrez vous abonner, laisser des commentaires et télécharger notre programme.
On vous laisse avec Everything Matters de Aurora et Pomme.
Au revoir et bon week-end!
I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, you're a part of the dawn where the light comes from the dark. You're a part of the morning and everything matters. There we are, an atom and a star. You're a part of the movement and everything matters. I'm watching the storm turn into form in the clouds of the world like a bird. Dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit.